Coucou! Les sexmaîtresses prennent un moment aujourd'hui pour vous présenter le coffret Sexo 100% plaisir des éditions Contredire.
C'est un jeu éducatif, inclusif, coquin et bien épicé, comme notre balado.
Seul ou avec une partenaire, désir et plaisir sont au rendez-vous, peu importe le nombre de cartes pigées.
Les défis à relever sont bien dosés et tout en nuances.
Le coffret Sexo 100% plaisir est maintenant disponible partout. Pour vous le procurer, toute l'information se retrouve dans la description de l'épisode, sur nos réseaux sociaux et sur le site web d'interforumcanada.com.
Bisous! À tout de suite! Salut! Vous écoutez les sexmaîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calée ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo,
de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu.
Bonne écoute! Aujourd'hui, les sexmaîtresses accueillent Roxane, une de mes collègues du baccalauréat en sexologie. Elle est maintenant sexologue clinicienne, candidate au doctorat en sexologie et chargée de cours à l'UQAM. Elle se joint à nous aujourd'hui en tant que sexmaîtresse honoraire pour nous introduire à sa vision du désir sexuel en tant que psychothérapeute. Bienvenue, Roxane!
Ben, bonjour! Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être avec vous et de discuter sur le désir, donc j'ai bien hâte.
Ouais, on sentait qu'on avait besoin d'une professional pour démêler tout ça.
Puis, tu sais, on sait que c'est un sujet super large et vague, donc on vous met déjà au courant qu'on pourra pas tout aborder ce que vous avez probablement envie d'entendre.
Je pense que avant de se lancer, ça va peut-être être important de départager des termes qu'on entend souvent, qui peuvent sembler comme synonymes, mais qui ne le sont pas, comme excitation sexuelle, libido, pulsion, plaisir sexuel, intimité. Fait qu'on va défricher ça. Comment, en fait, on le définit dans le DSM, qui est le manuel diagnostique en psychothérapie?
C'est le manuel de santé mentale, donc il y a plusieurs chapitres. Mais il y en a un précisément sur les dysfonctions sexuelles. Donc là, quand on est sexologue, psychothérapeute, on a le fameux papier qui dit qu'on peut faire l'évaluation des troubles sexuels. Donc, ça l'inclut, entre autres, les dysfonctions sexuelles, mais ça va plus large que ça. Puis dans le DSM, ça va comme suit. On appelle ça le trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle chez la femme. Donc, c'est un petit peu plus englobant qu'on n'appelle pas ça seulement le désir, là. Y aurait beaucoup d'affaires à parler par rapport au DSM puis leur choix de classification, mais ça sera pas pour aujourd'hui.
Donc, est-ce qu'il y a une séparation homme-femme?
Oui, ça c'est seulement pour les femmes. Puis on ne fait plus la distinction entre l'intérêt ou le désir versus l'excitation. Donc on les a combinés parce que c'était trop difficile des fois à les différencier. Puis le traitement ou les interventions reliées étaient pas mal les mêmes. Donc au final, c'était comme, ça sert à quoi? Et plusieurs études penchaient dans, pourquoi est-ce qu'on les combine pas? Tout d'abord, on appelle ça comme le critère A, c'est vraiment là qu'on a la liste des symptômes. Ça dit intérêt ou excitation sexuelle absent ou significativement diminué selon au moins trois des manifestations suivantes. Donc il y en a six, mais il en faut au moins trois. Puis là, les six possibles symptômes, c'est vraiment intérêt pour l'activité sexuelle absent ou réduit, pensée érotique ou sexuelle ou fantasmatique absente ou réduite, diminution ou absence d'initiation des activités sexuelles et typiquement non-réceptivité aux avances de la ou des partenaires. Ensuite, excitation sexuelle ou plaisir sexuel absent ou réduit dans 75 à 100% des activités sexuelles. Excitation ou intérêt sexuel absent ou réduit en réponse à tout type de stimulation. Donc là, ça peut être écrite, verbale, visuelle.
Pas penser à ça.
C'est global,
comme tu lis un sexo puis tu sens rien. OK, intéressant.
Après ça, le dernier, c'est sensations génitales absentes ou réduites dans 75 à 100% des activités sexuelles. Donc, on voit que ça peut être quand même plus large que seulement le désir qu'on peut penser. Moi, je trouve que peut-être les trois premiers, ça pourrait être plus dans le désir, puis les trois derniers, peut-être plus dans l'excitation. Mais là, on voit qu'ils ont été combinés. Donc,
C'est comme l'excitation, c'est comme la réponse un peu. C'est comme l'externe. Ça vient après les premiers critères. C'est comme plus le début.
Ouais, mais c'est ça aussi, l'excitation en termes physiologiques. On va souvent plus le qualifier en termes de lubrification, surtout chez la femme qu'on prend pour acquis, de cisnormativité qui est vulve et tout. Donc, c'est sûr que ça resterait cisnormatif, qu'est-ce qu'on va dire, là, à cet égard. Pour ça qu'on parle aussi de sensations génitales, c'est sûr qu'on dit pas de lubrification, mais absolument, monsieur, madame, tout le monde, comment je suis excitée, ben, ça va être la lubrification, c'est sûr qu'on peut se sentir un petit peu plus chaude au niveau des organes génitaux, tu sais, des choses comme ça. Il peut y avoir d'autres choses reliées à l'excitation, là, c'est pas seulement la lubrification, mais absolument, c'est plus ça.
Intéressant. Ça, c'était le critère A.
Oui.
Fait que là, il y en a d'autres après.
Quand on va dans le DSM, il faut toujours avoir d'autres critères parce que ça peut être que t'as une difficulté une fois, puis c'est tout. Donc, tu qualifies pas pour avoir le trouble, tu qualifies pas pour avoir un diagnostic, entre guillemets. Donc, le critère B, c'est vraiment, il faut que ça soit présent depuis au moins 6 mois. C'est vraiment pour s'assurer que c'est pas t'as déménagé puis là t'es stressé puis là c'est ça. Puis on s'entend qu'on peut être stressé pour plus que 6 mois, mais bon, ça fait que c'est
toute
un critère. Mais oui, c'est vraiment cette idée-là parce qu'on veut pas que ça soit seulement pendant un mois ou que ça soit circonscrit un peu dans le temps. Ça, c'est applicable à plusieurs autres troubles dans le DSM, là. Ensuite, le critère C, c'est il faut vraiment s'assurer qu'il y a une certaine détresse. Des fois que les gens se présentent en clinique puis que c'est pas eux qui sont en détresse par rapport à leur désir, c'est l'autre, c'est les partenaires. Donc souvent n'ont pas ces critères-là.
Mais oui.
Et moi, je dois souvent leur dire un peu, ben, je dois travailler avec ta détresse à toi. Qu'est-ce qui te fait souffrir là-dedans? Puis là, c'est avec ça qu'il faut que je travaille en fait. Avant, ça pouvait être la détresse de l'autre en fait, pouvait jouer. Mais non, on traite la personne devant nous. Ensuite, le critère D, c'est vraiment s'assurer que ça s'explique pas par d'autres choses. On a des fois des affectations physiologiques qui vont venir jouer sur le désir, une médication souvent associée avec la dépression, l'anxiété. Moi, je peux pas travailler dans le vide, tu sais, je vais pas faire travaillons sur ton désir, mais au final, c'est peut-être juste la molécule sur laquelle tu as fini par prendre les antidépresseurs ou quoi que ce soit.
Comme une blessure à la colonne vertébrale ou tu sais quelque chose de vraiment physique là que c'est comme ben pas parce que tu veux pas.
OK, mais là, pour revenir peut-être plus dans le concret, un petit peu, en ligne, on lit souvent aussi deux types de désirs qui s'expliquent de deux façons différentes. On parle souvent du désir qu'on dirait spontané, les pulsions qui arrivent juste comme ça. Puis on aurait le désir qu'on dit plus réactif, provoqué, déclenché, qui serait comme deux types de désirs différents, mais ça veut pas dire que t'es juste dans une des deux catégories pour toute ta vie, tu sais. C'est juste qu'il y en a peut-être au moins deux qui existent, sûrement plus. Quand on parle de désir spontané, c'est vraiment, on anticipe le plaisir qui s'en vient, que le sexe va nous apporter. On a hâte au sexe, tu sais. En fait, la façon qu'on perçoit le désir, je pense, dans la société, c'est vraiment ça. C'est le désir de, oh mon Dieu, je pense à ce soir quand je vais voir ma partenaire, puis ouf, j'ai déjà du désir, mettons. Puis quand on parle plus du désir provoqué, c'est une réponse au plaisir d'une intimité ou d'une sexualité. Donc, il y a peut-être déjà des avances qui ont commencé, une intimité qui a commencé quand le désir émerge.
Oui.
Fait qu'il est comme pas tout le temps là dès le départ.
Je pense que ça,
c'est quand même une bonne...
C'est vrai.
Bonne base.
Ben oui, puis je trouve que des fois, c'est quelque chose à déconstruire, des fois en thérapie, justement, ben, la personne m'embrasse, puis là, tout de suite, je sens parce qu'il peut y avoir une certaine intensité qu'on s'attend, qu'il y a peut-être un désir de rapprochement sexuel, on va le dire comme ça. Mais des fois, ça peut mettre la personne vraiment en pression de, OK, donc moi, je dois répondre. Et là, ça va être un petit peu plus dans, OK, il faudrait que ça soit spontané, il faudrait que ça soit maintenant. Donc là, ça met beaucoup de pression parce que peut-être que ça marche pas comme ça. Peut-être qu'il y a comme d'autres étapes. Puis peut-être que l'autre, comme tu l'as dit tantôt, Sarah, peut-être que ça fait toute la journée qu'il a pensé à « je vais arriver à la maison, voici, ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Puis là, ben l'autre personne est pas au même niveau. L'attente est pas la même. Peut-être qu'il n'y a pas eu de texto pour avoir des préambules, hein? si on vient avec ce qui était dit tantôt, Val. Donc, tu sais, des affaires comme ça, ça met beaucoup de pression. Puis là, il faut comme déconstruire que ben c'est pas parce que l'autre s'approche que c'est nécessairement parce qu'il y a un souhait de relation sexuelle ou d'activité sexuelle. Mais après ça, c'est aussi, ben, peut-être qu'il faut que tu communiques, que tu déconstruives un peu le, ben, moi, tu peux pas arriver comme ça, tu sais, il faut comme retravailler l'approche aussi de comment bien débuter si on souhaite avoir une relation sexuelle ou des activités sexuelles. Donc, tu sais, souvent, il y a cette pression-là de tout de suite, je dois répondre et être à on. On va l'utiliser de même, là, carrément, puis c'est comme, ben, peut-être qu'il faut réchauffer le moteur, là. Il y a plein de métaphores qu'on peut faire, là, même.
Mais c'est bon, c'est comme si, tu normalises un peu les décalages de désir sexuel qu'il peut y avoir dans un couple ou peu importe, là. Avant qu'on passe à autre chose, vous avez nommé des trucs qu'on pourrait aussi définir, là, qui font référence aux synonymes dont je parlais tantôt. Fait que excitation sexuelle, c'est la stimulation du désir sexuel pendant ou dans l'anticipation d'une activité sexuelle. Ce qui est impliqué dans l'excitation sexuelle, ce serait que les stimuli érotiques qui sont les tendances précipitant l'activité sexuelle. La réponse aux stimuli sexuels nourrissent l'excitation sexuelle, puis c'est le build-up. Donc souvent, ça vient pendant ou dans l'anticipation, mais ça dépend, tu sais. Sarah t'a nommé aussi l'intimité sexuelle ou l'intimité en général, là. L'intimité réfère généralement au sentiment d'association personnelle proche avec autrui. Elle se rapporte à une connexion familière et affectivement très étroite avec d'autres, en résultant à un certain nombre d'expériences communes. L'intimité véritable demande des échanges, de la transparence, de la réciprocité et, incidemment, une certaine vulnérabilité. Donc ça, c'est comme une définition très large de l'intimité. Je peux avoir tout ça avec ma sœur, par exemple, mais ouais. Une intimité sexuelle, ce serait tout ça, mais dans un couple, dans une relation.
Quand on va parler d'intimité, c'est plus pour... Oui. On n'est pas nécessairement obligé de tout le temps associer à la sexualité, le sexe. On fait le sexe, tu sais, je pense
qu'on fait le sexe.
Comme si on veut juste résumer c'est quoi intimité pour l'épisode aujourd'hui, je pense. Mais c'est plus comme tout ce qui est caresse, bec, communication, comme cute, ou t'sais, érotique.
De collaboration dans le couple, de peu importe.
Aussi, ça peut être avec un one night, ça peut être peu importe la configuration relationnelle. Mm-hmm. Je pense que l'intimité sexuelle débute avant la sexualité, débute avant le début des activités sexuelles, donc Mais moi, j'aurais beaucoup de choses à dire. Dans l'excitation sexuelle, habituellement, on va plus se référer à la physiologie. Tandis que quand on parle de désir, on va beaucoup plus aller dans les facteurs comme psycho-relationnels. Donc, dans ta tête, puis l'excitation, c'est dans le corps.
OK.
Mais ça vient beaucoup avec le modèle de Masters and Johnson.
Mais on s'est rendu là.
OK. Le modèle de Masters and Johnson, oui, il date des années 60, mais au niveau physiologique, c'est encore d'actualité. Puis il n'y a aucune autre étude, en fait, vu qu'on a trouvé ces informations-là, ça donne pas grand-chose en 2023 de refaire cette étude-là, puis ça demande beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment au niveau physiologique qu'ils ont regardé avec... Il y avait beaucoup d'affaires biomédicales là, d'impliquer, là, je vais parler dans tous ces détails-là. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est peu importe le genre de la personne, ils trouvaient que la première phase, en fait, de la réponse sexuelle, c'était l'excitation.
OK, oui.
Donc là, l'excitation, il faut vraiment penser que tout est comme à « on ». Tout va commencer. Oui, le cœur va aller un petit peu plus vite, on va avoir un petit peu plus de rougeur, on va avoir un petit peu plus de...
D'engorgement.
De sang. C'est ça. Oui, d'où la rougeur. Mais je pensais aussi au niveau des mamelons, là, donc peut devenir un petit peu plus rouge. Mais c'est ça, tout va être activé.
Ouais.
Donc c'est ça l'excitation.
Ouais.
Tout est en activation. Puis après ça, t'as la phase de plateau où que cette activation-là demeure à un niveau X, mais demeure le même. C'est sûr que si la stimulation demeure satisfaisante et tout et tout, là, on s'entend, là.
Genre, ta mère, elle rentre pas dans la pièce, mais ça pourrait que tu descendes du plateau.
Tout de suite, sans avoir d'orgasme. Ensuite, c'est toujours dans des conditions optimales, hein, tu aurais la phase de l'orgasme. Et après, la résolution. Donc, la résolution, c'est vraiment retour à la norme. Ouais, donc, c'est tout l'antipôle, en fait, de l'excitation. Puis, pour les personnes, en fait, ayant un pénis, ben, il y a une phase de plus qui s'ajoute, puis c'est la période réfractaire. Ça veut pas dire que parce qu'on a une vulve clitoris, hein, qu'on n'a pas cette période-là, c'est juste qu'elle n'a pas été capable d'être perçue, en fait, au niveau physiologique. Mais la période réfractaire, c'est vraiment entre l'éjaculation, là, quand on parle d'un pénis, bien sûr, l'éjaculation et la prochaine possibilité d'avoir une érection. Donc ça, ce temps-là peut vraiment être différent d'une personne à l'autre, puis avec l'âge. Ça fluctue encore plus, mais bon, cette période-là, tu sais, c'est vraiment physiologique, donc il y a rien à faire. Ouais.
C'est pas un trouble du désir, là.
Non! Des fois, c'est juste ton corps est peut-être pas encore prêt à se remettre dans tout, parce que c'est beaucoup d'énergie, là, se mettre dans l'excitation. Ouais. Mais on peut quand même voir ça, des fois, chez les femmes, de comme, hey, j'ai eu mon orgasme, là, puis à un moment donné, c'est comme, touche-moi pas, donne-moi du temps. Puis il y en a que c'est comme, je suis finie pour ce soir, là, puis il y en a d'autres que non, mais ça, ça va vraiment venir varier. Fait que des fois, on se demande, ça pourrait être la fameuse période réfractaire, mais on n'a pas assez de données au niveau physiologique pour dire ça, là. Mais
on n'a pas assez d'études sur la sexualité des femmes.
C'est la première fois, hein?
Mais tu me surprends donc bien avec ça.
Mais oui, donc c'est ça que je trouve vraiment important, c'est de venir à, c'est physiologique, donc là, on pourrait s'intéresser, en fait, en clinique beaucoup, ou en intervention de, OK, la personne vient à moi, puis elle dit, quand que l'autre m'approche, j'ai pas de lubrification. Donc, je n'ai pas de désir, je n'ai pas d'envie. Plus souvent, c'est ça qu'il faut venir déconstruire de faut s'assurer qu'on parle de la bonne chose, premièrement, parce que là, des fois, les gens vont dire « ben, je n'ai pas de désir », puis au final, c'est parce que la personne ne perçoit pas de lubrification. Puis ne pas percevoir de lubrification, est-ce que c'est nécessairement « je n'ai pas de désir ». Donc, c'est là que ça va être vraiment important de déconstruire le physiologique, le mental, qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, j'ai eu à inviter les personnes aussi à en parler avec leur partenaire, s'il y en avait, et de faire « ben, peut-être que c'est une question de « vous avez besoin peut-être plus de moments de rapprochement, moments d'intimité », avant qu'il y ait peut-être un début de réponse physiologique. Là.
Ouais, c'est ça.
Puis des fois, ben, un lubrifiant peut peut-être aider à ça. Est-ce que la personne est à l'aise? Puis c'est là qu'il faut vraiment prendre avec chaque situation. T'sais, on veut pas que ça soit, si on fait le parallèle avec la nourriture, c'est pas l'appétit vient en mangeant. Il y a tellement d'astérix, puis là, on veut pas tomber dans consentement, pas consentement. Là, on s'entend, là, on va vraiment parler de « il y a consentement ». Mais c'est ça, il y a plusieurs astérix, fait que c'est pour ça qu'on peut pas juste dire à tout le monde « ben, l'appétit vient en mangeant, puis c'est ça, forcez-vous ». Ben non, parce qu'après ça, si la personne est vraiment pas enthousiaste et pas dedans, ben, ça peut faire que ça va être une expérience négative, qui va faire qu'elle ne voudra pas se remettre dans une situation sexuelle, qui va faire que ça va impacter son désir. C'est tellement situationnel, puis d'inviter la personne un peu à faire « ben, est-ce que c'est ta tête qui dit ça? » Tu sais, des fois, je vais le dire comme ça, ou j'aime mieux dire les émotions, hein. Je travaille plus en humaniste. Donc, est-ce que c'est tes émotions qui disent que tu veux pas, ou c'est parce que tu penses que tu lubrifies pas, tu sais, donc...
Ah, c'est différent.
C'est juste de dire, dans le fond, on radote toujours un peu ça, mais c'est comme chaque personne est différente, chaque moteur de voiture est différent. Si on parle de s'activer, starter la machine, réchauffer les moteurs, tu sais, dans ces métaphores-là, ça se peut que toi, ton moteur, il prenne tant de temps du visuel, ça se peut que ça te prenne des X, Y, Z, là. Faut juste que t'apprennes à le connaître puis que tu le mets en phase avec la personne avec qui tu vas avoir une relation.
Ouais, oui, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître puis expérimenter aussi puis avoir la communication puis vraiment se sentir aussi ben, sécuritaire.
Ouais.
C'est ça qu'on souhaite à chaque fois qu'on se met dans une situation d'intimité sexuelle, là, bien sûr. Peu importe la configuration, là, mais c'est quand même central de penser qu'on peut être quand même en sécurité. Là.
Ben,
ça demande cette vulnérabilité-là. Puis en t'entendant justement avec les autres métaphores, l'autre qui me vient en tête beaucoup, c'est les plantes, tu sais, de savoir aussi que, moi, je suis pas bonne en plantes, là, mais chaque plante a son mode d'emploi.
C'est vrai.
Ça a l'air bien simple quand tu sais le mode d'emploi, mais même quand tu le sais, des fois, c'est difficile. Mais bref, y en a qui ont besoin plus de luminosité, il y en a qui, il faut les arroser à chaque jour, il y en a d'autres que, une fois par mois, c'est suffisant. Fait que c'est là aussi un peu de normaliser.
Puis en plus, leurs besoins changent à chaque saison. Oui. Puis en automne, il y en a plein qui meurent, il y en a plein en été, ils reviennent. Exact. Fait que ça aussi,
des fois il faut les replanter, mais il faut choisir notre saison quand on le replante.
Les sols, faut qu'ils soient différents. Il y en a sableux, il y en a d'autres argileux.
Mais maudit que c'est le fun quand tu sais tout ça, puis que tu travailles ça, puis tu essaies de comprendre. On n'est pas obligé de le voir comme un devoir pénible. Non. C'est sûr, si t'aimes pas les plantes, regarde, c'est correct.
Mais c'est drôle, ça m'apporterait à glisser vers... Parce que dans ce qu'on est en train de dire, on entend beaucoup les causes qui influencent le désir sexuel. Puis il y a plusieurs différentes catégories de trucs qui vont avoir un impact sur notre désir sexuel. Fait qu'on pourrait rentrer là-dedans, parler brièvement de quelques exemples de causes pour que les gens aient des repères.
Ouais, on commence déjà avec une astérix ici. Ça se peut que ça s'applique à vous, ça se peut que ça s'applique pas à vous. Il y a tellement de raisons que si vous pensez que ça s'applique, allez consulter. On va nommer des trucs un peu comme en liste d'épicerie, mais attention.
Mais encore.
Oui, puis des fois, c'est la conjugaison, en fait, la combinaison de ces facteurs-là. Tu sais, c'est pas « ah, j'ai un facteur, puis pouf, je n'ai pas de désir ».
Commençons avec les causes plus somatiques ou physiques. Tout ce qui est trouble hormonal, des maladies physiques comme une blessure à la colonne vertébrale, par exemple. Des douleurs chroniques qui pourraient faire en sorte que t'es pas confortable dans ton corps.
Le vieillissement, tout ce que ça apporte.
Exact.
Les changements.
Mais le vieillissement, ce qui arrive, c'est que tout peut être plus ralenti, en fait, dans le système. Donc, pour avoir un niveau d'excitation, peut-être comme avant, entre guillemets, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mm. Fait que des fois, c'est ça, en fait, qui va venir
on est impatient, parfois!
mais oui, l'aspect vraiment hormonal, là, ça, ça ressort beaucoup.
Okay.
Ben, la glande thyroïde, on va en parler quand même souvent. On va s'assurer, est-ce que vous avez des soucis à ce niveau-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans votre famille, est-ce que ça a été testé ou des choses comme ça? Puis je rajouterais peut-être dans le physiologique tout ce qui est médicaments.
Ah, les médicaments, oui.
Tu sais, ça va dépendre de lesquels, bien sûr, puis je l'ai déjà un petit peu dit tantôt, là, mais tout ce qui est antidépresseur puis anxiolytique, on sait que certaines composantes sont vraiment reconnues comme ayant un impact direct. Des fois, c'est vraiment de regarder avec le médecin, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir une molécule similaire, mais que ça soit pas, admettons, je dis des affaires, là, que ça soit pas reconnu, que c'est à 100% que t'auras pas de désir. Là. En tout cas, c'est le médecin qui regarde, là, ça va au-delà de nous. Là.
Ouais.
Mais c'est vraiment regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour atténuer un peu ces impacts-là, puis pas de pallier avec un autre médicament pour le contrer cet effet-là. Mais des fois, c'est est-ce que tu veux ne plus être en dépression ou avoir du désir? Donc,
c'est des grandes questions. La prochaine catégorie, tout ce qui rentre dans le psychologique, genre juste, tu sais, j'ai eu une mauvaise journée, je suis stressée, puis c'est comme vraiment pas, c'est pas un trouble.
Ouais.
Fait qu'il y a des millions d'exemples de ça, là, tu sais.
Tout ce qui vient affecter, en fait, notre morale, notre désir d'avoir une intimité ou non. Là, ben...
Tout ce qui peut avoir un impact sur ce qui se passe dans ton cerveau au niveau cognitif. Sinon, après, il y a psychopathologique. Fait que là, c'est comme vraiment quand t'as un trouble anxiété, un trouble d'anxiété généralisée. Exact. Quelque chose qui est plus diagnostiqué. Dépression, t'sais, bipolaire, schizophrénie. T'sais, là, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur ton désir sexuel. Mmh. Sinon, il y a tout ce qui est relationnel dans le couple, ou j'imagine que ça peut aussi aller dans le familial, comme tout ce qui est relationnel autre, là, tu sais. J'ai eu une chicane avec ma blonde hier, tu sais, je fais pas confiance à mon copain pour x, y, z raison.
Puis il y en a d'autres qu'on a une chicane, puis ça va nous rapprocher, mais ça, c'est autre chose. Fait que, tu sais, oui, ça peut rentrer vraiment là-dedans, là, dans notre souhait ou non.
Ben là, je suis dans le négatif beaucoup, mais effectivement, il peut avoir comme des impacts positifs, là, sur les désirs.
Ben là, c'est sûr qu'on est dans les causes du manque de désir.
Ouais. C'est sûr qu'on est plus dans là-dedans.
Roxane, tu peux peut-être confirmer avec ton expérience clinique, là, tu sais, mais sur la baisse de désir sexuel était quand même une des causes les plus communes de problèmes de couple, puis que c'était souvent parce que c'était rendu comme un moment trop familier, ou tu sais, comme il y avait moins de nouveautés, comme on parlait tantôt du désir spontané, il est peut-être moins là, le désir spontané, quand t'habites ensemble avec deux enfants.
Ouais.
C'était souvent une des causes, genre, d'aller consulter, là, tu sais.
Oui, oui. C'est quand même assez présent, je vous avouerais que ça va dépendre de quelles statistiques qu'on regarde, ou des choses comme ça, là. Si je me fie, en fait, au sein même de notre laboratoire, ça fait un petit segue avec le laboratoire Trace qui est dirigé par Natacha Godbout à l'UQAM. Donc, on s'est vraiment enquiré en fait des motifs de consultation des gens qui viennent auprès des stagiaires en sexologie clinique, donc des futurs sexologues psychothérapeutes. Ça tourne autour de un tiers. Donc, 33% là, environ là, des gens qui viennent en lien avec le désir ou l'excitation ou l'intérêt. Là, peu importe comment c'est nommé. Puis des fois, les gens venaient en fait pour plusieurs motifs. Ça vire autour de ça. Des fois, en fait, les gens consultent pour d'autres choses que leur désir sexuel. Des fois, ça peut être parce qu'ils s'entendent peut-être pas dans comment éduquer leurs enfants. T'sais, il y a comme plein d'autres choses que des fois, au final, on va arriver que ça va être sur le désir. Moi, c'est sûr que je travaille beaucoup plus en individuel. Des fois, je dois quand même être un peu le « ben, est-ce que t'en as parler à l'autre, de développer en fait cette communication-là de est-ce qu'on est capable de trouver un peu notre danse, puis de faire « Hey, là, je veux juste de l'intimité physique, sans sexualité, sans attente sexuelle. » Fait que tu sais, des fois, c'est ça qui peut avoir beaucoup dans la routine, puis un peu de « Ben là, la personne s'approche, est-ce qu'elle veut de la sexualité? Moi, je suis pas là, là. Moi, je suis dans ma to-do list. » Puis souvent, ben, sur la fameuse to-do list, on n'a pas la sexualité.
Non.
Mais ça reste que ça devrait être un besoin, si c'est important à chaque personne de voir à quel point c'est important, puis à quelle fréquence et tout, là. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'astérix.
Là, je veux te couper rapidement parce que j'ai lu quelques textes qui parlaient de la charge mentale. Puis, veuillez vous référer à notre épisode sur la charge mentale si vous ne savez toujours pas c'est quoi. Mais majoritairement, c'est les femmes, là, qui ont la charge mentale sur leurs épaules de penser à tout ce qu'ils ont à faire dans la semaine, là, pour les enfants, pour l'épicerie, pour tout. Bien, ça aurait un coût sur la sexualité. Avoir l'esprit sans cesse occupé, là, à penser à tout ça, ça empêche de penser à autre chose, dont la sexualité, comme tu viens exactement de dire, qu'on le met pas sur notre to-do list, la sexualité. Mais il y avait aussi le fait que, dans un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, si c'est tout le temps toi qui a la charge mentale, ben tu finis par voir un peu ta partenaire comme un enfant ou comme quelqu'un à t'occuper, ce qui est peut-être moins comme un être sexy et sexuel que t'as envie de baiser.
Ouais, comme un team partner avec qui tu fais des touchettes.
Exact, fait que t'as comme moins d'admiration pour ton partenaire sur ce côté-là. Inconsciemment, là, tu te dis pas comme...
Ben ça construit pas l'intimité non plus avec ton partenaire. Si ton partenaire, c'est ton ou ta partenaire sont un fardeau de plus.
Ouais, c'est ça. Fait que bref, je l'ai amené cette petite que... Genre, si vous voulez avoir plus plus de sexe, prendre de la charge mentale.
Hot take!
Ouais. Ben oui, puis des fois, c'est comme thérapeute, je vais souvent faire, ben, est-ce qu'on peut essayer de départager certaines tâches? Tu sais, ça a l'air tellement anodin, puis des fois, c'est comme la personne, elle va me dire, hey, mais j'ai pensé à ça, là, puis là, toute la journée, ça m'a gossé, puis là, après ça, ça me tente pas, justement, de me rapprocher, parce que là, elle m'a gossé, mais sans le savoir, parce que mes attentes sont à tel niveau pour le ménage ou quelque chose, puis c'est comme, pourquoi tu fais pas juste lui dire ou lui partager? Peut-être que toi, ton niveau de cleanliness est différent, mais après ça, est-ce que ça peut t'aider à un peu de relâcher certaines choses? Tu sais, souvent, c'est sûr que c'est très simpliste, là, puis ça a l'air vraiment... portez pas ça sur vos épaules, mais après ça, on le porte depuis qu'on est né, puis on est socialisé comme ça, on s'entend, là. Puis après ça, il faut prendre soin des autres, là, tu sais. C'est comme, est-ce qu'on peut prendre soin de soi? Puis tu sais, ça revient beaucoup dans, ben, il faut quand même que la personne aille bien pour après ça être favorable à la sexualité. Fait que tu sais, souvent aussi dans la charge mentale, ce qu'on peut voir, c'est un certain épuisement. On peut voir aussi une perte de plaisir en général, parce qu'il y a constamment cette charge mentale-là, constamment cette to-do list-là. Puis je vais juste questionner, qu'est-ce qui t'anime en fait? Je vais pas dans la sexualité, juste as-tu quelque chose dans la vie qui t'anime? Ben peut-être qu'on pourrait commencer avec ça au lieu de s'attarder tout de suite à la sexualité.
Il y a une étude de Natalie Rosen à Dalhousie University à Halifax qui mentionne que les femmes qui vivent en couple sont 5 fois plus susceptibles d'éprouver de la détresse à cause d'une baisse de désir que les femmes qui sont pas en couple. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça parle de tous les facteurs relationnels dont on vient de parler et beaucoup d'autres qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, qui sont présents dans une baisse de désir. C'est quand même intéressant de voir que les femmes en couple sont 5 fois plus en détresse à propos de leur désir sexuel que les femmes qui sont pas en couple.
Ouais, ça parle de pression, ça parle de... il y a quelque chose...
Quelque chose là.
Mais il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui me vient en tête, c'est beaucoup là, quand on n'est pas dans une relation, on va dire stable, monogame et tout, et peut-être pas en cohabitation, c'est peut-être ça aussi. Quand qu'on voit l'autre, qu'on va en date.
La nouveauté.
On a un mindset différent. Puis des fois, on décide avant la date... si on veut ou non être dans l'intimité sexuelle. Bien sûr, on peut décider que non, puis ça finit par oui, mais souvent, on va quand même se préparer mentalement, dans nos choix peut-être de sous-vêtements, dans nos choix de vêtements. Tu sais, il y a plein de choses qui vont être peut-être là, puis ça, on peut parler même s'il y a une décision par rapport au poil ou non, tu sais, on s'entend que ça, ben, il faut planifier. Fait que là, c'est ça, à chaque fois qu'on se voit, ben, c'est déjà un peu planifié. Donc, je me mets dans le mindset. Donc, ça fait peut-être déjà 24 heures que je pense qu'on va avoir du sexe ou non. Quand on habite ensemble, je te vois 24 sur 7. J'ai pas cette planification-là. Souvent, c'est pour ça qu'on va dire, ben, est-ce que c'est possible d'avoir des date nights, de se remettre un peu dans le bain de tout ça, puis des fois, on va retirer l'injonction ou l'attente d'avoir une sexualité, parce que ça met beaucoup plus de pression. Fait que ça, c'est l'affaire qui me revient beaucoup en tête, en fait, quand on pense à couple, pas couple. Mais il y a aussi, là, souvent dans ces études-là, je prends pour acquis, c'est des couples hétéros. Il y a peut-être la discordance, en fait, de désir qui, là, va faire, ah, ben, je n'ai pas de désir. Ce n'est pas que t'en as pas, c'est peut-être que t'as pas le même niveau.
Exact.
Que toi, ça a toujours été une fois par semaine, puis ça tombait que vous aviez une date par semaine.
Ouais.
Techniquement, t'étais toujours un peu à « on » dans ces dates-là. Mais après ça, sur le 24-7, une fois par semaine, peut-être que c'est pas satisfaisant pour l'autre personne qui aurait souhaité, avec le fameux 2-3 fois semaine, qui n'est pas en fait la norme dans les statistiques. On voit, des fois, c'est une fois semaine, puis des fois, c'est une fois par mois, même là, au Canada, qu'on va voir, là, dans les vraies statistiques. Là, c'est, le 3 semaines n'existe pas. Là. Dans le social, ça reste dans nos attentes, dans nos mœurs et tout. Puis des fois, ça peut être la femme qui en veut plus. Là, ça veut pas dire que c'est tout le temps l'homme qui en veut plus. Là. Ça va vraiment dépendre de tous les besoins qui sont derrière, en fait.
Les dernières causes, mettons, entre guillemets, là, qui pourraient influencer le désir sexuel, toutes les causes socio-culturelles, je suis en vacances dans le sud. Les hommes
le
sont beaux. Ouais, le contexte.
Le contexte.
Ouais. Je viens de me marier.
Ce qui me vient en tête beaucoup, c'est est-ce que t'as pensé que comme femme, tu devais pas avoir de plaisir? T'sais, on peut entrer là-dedans.
Comme
dans
tout ce qui est religieux aussi.
Mais sans venir dans les stéréotypes, bien sûr, il y en a qui sont plus lax que d'autres, mais ça va former un peu, puis des fois même, on va regarder, est-ce que dans ta famille, sans voir de la sexualité, est-ce que tu voyais quand même des preuves d'affection? Est-ce que maman, papa, si on pense encore à un couple parental hétéro, est-ce qu'ils se donnaient la main, est-ce qu'ils s'embrassaient un peu, tu sais, est-ce qu'on voyait un peu la complicité ou ça se voyait pas? Peut-être que dans notre vie, on prend pour acquis qu'il faut pas que ça se voit, peut-être qu'on n'a pas ces premiers petits touchés-là qui nous amènent
Nos référents familiaux, nos référents sociaux.
Ouais.
OK, mais j'en aurai un dernier Vas-y. Dans cette catégorie-là. Puis Val, tu vas aimer ça parce que je suis allée pelleter des nuages.
Yeah.
Puis je peux aucunement m'accorder le crédit parce que c'est Emily Nagoski qui a dit ça. Elle parle de la cause du capitalisme.
Oh!
Ouais, elle a poussé loin, mais OK.
Follow.
Ouais. Avec le capitalisme, on nous encourage toujours à vouloir toutes sortes de nouvelles choses tout le temps. On veut tout le temps la nouveauté.
Oui.
On est censé vouloir les choses.
Mm-hmm.
Quand on transpose ça à la sexualité, on est tout le temps supposé vouloir. Fait que quand on pense au désir comme quelque chose qu'il faut vouloir...
Oui, exact.
ben, on le voit comme une transaction.
Yeah.
Tandis que si on change notre perception en le voir comme quelque chose qu'on apprécie, que les choses qu'on a déjà, on les apprécie, on y trouve du plaisir, là, ça change la perception de la sexualité.
Mm-hmm.
Parce que dans sa tête, elle était comme on voit le désir dans une notion de capitalisme aussi, qu'on veut de la nouveauté, on veut toujours. Puis le désir, encore une fois, est vu comme quelque chose qu'il faut vouloir au lieu d'apprécier et prendre plaisir.
Mais c'est intéressant. Il y a plusieurs personnes dans les communautés polyamoureuses qui voient le désir comme un trop-plein qu'il faut en fait donner au lieu d'un manque qu'il faut remplir.
Mm-hmm. Tu veux dire?
Ouais. Comme que le verre, il est vide puis qu'il faut le remplir. Tu sais, avoir du désir, c'est parce que je le veux, comme tu dis, le vouloir, au lieu d'avoir un verre trop plein qu'il faut en fait verser aux autres. Puis là, le polyamour, sont comme dans l'espèce de genre, j'en ai tellement...
Je peux le partager à plusieurs personnes.
Exact. Mais c'est une perspective intéressante, puis effectivement, si on rentre dans tout ce qui est les théories marxistes, communistes, capitalistes, tout ça, ben effectivement, l'aspect transactionnel du désir se représente aussi beaucoup dans le capitalisme.
Mais aussi, on voit beaucoup l'aspect consommation.
Ouais,
c'est ça.
Puis là, on peut rentrer dans la pornographie puis tout aussi. Puis il y a l'aspect aussi très transactionnel de « Ah, si l'autre personne a payé, ben la personne s'attend peut-être à... » Mais on l'entend, en fait, cette idée-là. Ben ça fait plusieurs fois qu'on se parle, ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Ben évidemment, c'est ça, le bargain. C'est comme personne t'a fait signer de... aucune entente, là. C'est pas comme une compagnie cellulaire. T'as pas d'engagement. Donc ouais, je le vois beaucoup là-dedans, puis c'est intéressant, de plus en plus, on va voir justement cette théorie-là, le capitalisme, tout, mais c'est sûr qu'après ça, moi, en bureau, tu sais, il faut que je sache que ça existe,
du capitalisme, que vous allez pas
bien. Oui, tu veux quand même mobiliser la personne, ben oui, c'est un peu démobilisant de dire genre, ah ben,
c'est capitaliste, bonne journée, on va passer à d'autres choses, là, tu sais.
C'est intéressant, ça me ferait glisser peut-être vers les recommandations pour les personnes qui se posent des questions sur leur désir sexuel ou qui veulent en savoir plus sur le désir sexuel ou comment le travailler, comment l'activer. Mmh. Une notion qu'on a vue aujourd'hui quand même, qu'on pourrait peut-être répéter, c'est surtout, tu l'as dit tantôt, Roxane, mais le plaisir, tu sais, comme, t'as-tu du fun dans ta sexualité? Mmh. T'as-tu envie d'en avoir? Y a-tu des choses qui t'animent ailleurs dans ta vie, tu sais, des choses qui passionnent? Puis essayer de faire comme le rapprochement entre ces deux trucs-là qui pourraient t'animer.
D'ailleurs, tu sais, Emily Nagoski, sa conclusion sur l'affaire du capitalisme, c'était exactement ça. C'était, tu sais, qu'on parle de bien-être sexuel, on devrait le centrer sur notre plaisir plutôt que sur le désir. Parce que comme on dit, des fois, le désir, il est pas toujours là au début. Il apparaît, des fois, il est pas toujours là, mais tu finis par avoir du plaisir dans certaines situations qu'on s'entend tout le temps, évidemment.
Oui.
Peut-être essayer de...
Ouais, vraiment centraliser.
Ouais.
Puis oui, je pense que son prochain livre va être sur le plaisir.
Ah,
en fait.
OK.
Son premier, en anglais, « Come as you are », maintenant est traduit. J'ai trouvé deux termes en français, là. Fait que je suis pas sûre comment qu'il s'appelle en français. Il y en a un qui c'est « Réjouissez-vous ». Puis l'autre, c'est « Je jouis comme je suis », qui est beaucoup plus proche de comment qu'il est en anglais, là, « Come as you are ». Fait que depuis 2021, on a le droit à la traduction. C'est ça, je trouve ça vraiment important, comment qu'elle va centraliser maintenant le plaisir, puis comment qu'elle-même elle a changé un peu sa vision par rapport à ça. Puis ça me fait beaucoup penser également à, est-ce qu'il y a une connaissance de c'est quoi qui t'excite, puis c'est quoi qui vient inhiber en fait la sexualité. Puis là, ça revient beaucoup avec ce que Emily Nagoski utilise dans Come As You Are, donc son premier livre. C'est le modèle en fait de Bancroft & Johnson, donc ça sort pas juste de elle, là. Faut voir un peu l'excitateur comme étant, ben, je mets mon pied sur le gaz, tandis que l'inhibiteur, ben, c'est le frein. Tu sais, si on met les deux à plein pied, on va pas bouger.
Ouais, c'est weird, ça.
C'est ça.
Ouais,
donc, des fois, il faut venir un peu retirer le frein pour après ça être capable d'avancer. Mais chaque frein puis chaque gaz, en fait, ont pas le même poids, là. Donc, des fois, oui, dans les inhibiteurs, on va beaucoup voir un peu peut-être les expériences de trauma qui vont être réactivées. Mais j'en ai plein d'autres listées, là. Je vais y aller très sommairement, vu qu'on est dans les recommandations. Ça va être carrément avoir vécu peut-être un rejet sexuel, avoir une perception de danger ou de non-sécurité, comme on dit. disais tantôt, être stressé, être en colère, bien que chaque personne, ça peut aller dans chaque sens. Après ça, avoir une image corporelle négative, avoir un contexte peut-être non important. Donc, peut-être qu'il y a les enfants, justement, dans la maison, dépendant de leur âge, hein. Il y en a qui demandent un petit peu plus d'attention. Donc, ça, ça peut être des inhibiteurs. Mais il y en a d'autres, ça peut être plein de choses. Il y en a qui m'ont nommé, des fois, même un sexto. Ça va être un inhibiteur parce que là, ça va être comme, OK, quand on va se voir ce soir, it needs to happen. Il faut que ça se passe. Donc là, un peu le, OK, ça me met en pression de performer. Donc, moi, c'est un inhibiteur. Ça va pas se passer. Mais il y en a d'autres que ça va être un excitateur. Donc, mais encore une fois, c'est ça qu'il faut, en fait, se questionner sur soi-même puis pas prendre pour acquis que, ah, oh, ben, pour moi, c'est peut-être un excitateur. Pour moi, c'est peut-être un inhibiteur.
Pas prendre pour acquis ceux de son, sa partenaire non plus, tu sais. C'est pas parce que moi, j'adore les sextos que la personne aime ça ou pas. Ça ben aime pas ça, comme tu dis, on va être freiné.
Ça l'envoie quoi comme message? Puis les excitateurs, on peut voir, ben, se sentir aimé, se sentir apprécié, se sentir en sécurité, avoir une bonne journée, se sentir apprécié, je l'ai dit un peu tantôt. Contexte romantique et érotique, en fait, est-ce que c'est propice? Est-ce que ça nous donne envie ou non? Et une humeur positive, là, ça reste très généraliste, mais puis on voit vraiment ça, si on avait la possibilité d'avoir une image, là, ça serait vraiment un peu les anciennes balances, là, tu sais, qu'on a deux, là. Puis là, on essaie de voir de quel côté ça penche un petit peu plus, puis comment qu'on peut désencombrer le côté d'inhibiteur, en fait, pour plus aller dans l'excitateur. Donc.
Et consulter une sexologue qui est une autre de nos recommandations. Au PSQ, vous allez trouver toutes ces infos-là dans nos show notes, mais aujourd'hui, on en parle très sommairement. L'épisode est pas assez long pour couvrir toutes sortes d'affaires. Donc, c'est important d'aller consulter si on sent la détresse, la souffrance par rapport à ça, si on n'est pas bien là-dedans. Parce que des fois, ça prend justement une professionnelle pour clarifier, déchiffrer, décortiquer les trucs.
Puis même pas obligé d'être en détresse, tu sais. J'ajouterais que comme, des fois, t'as juste des questionnements parce que t'as pas eu une éducation à la sexualité ou que tu te fies pas aux informations en ligne parce que ça, surtout sur le désir, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Donc, des fois, juste aller consulter, puis des fois, ça mène à autre chose. Donc,
en tant que sexologue et psychothérapeute, mon rôle, c'est pas nécessairement juste d'aller dans l'éducation, ça va être plus de, puis toi, par rapport à ça, qu'est-ce qui ressort? Puis des fois, ça va être vraiment dire à la personne, ben, essaie d'aller trouver de l'information, puis après ça, on va le déconstruire ensemble de est-ce que c'est approprié, est-ce que toi, tu sens que ça s'applique à toi ou non? Et va lire le « Come as you are » ou « Je jouis maintenant » en français. Et après ça, qu'est-ce qui ressort pour toi? Puis peut-être des fois, c'est de tweaker un peu le... Ben, c'est qui te dit que tu devais avoir une... Lubrifier tout de suite. Qui te dit ça? Puis peut-être que ça s'applique pas à toi, puis revoyons ça. Donc des fois, c'est tout le temps plus ça, en fait, les méconnaissances ou les croyances un petit peu plus sociales ou quoi que ce soit. Puis c'est comme, ben, quand j'en parle avec mes amis, tout le monde, c'est comme ça, fait que ça doit être comme ça. Moi, ce qui vient, c'est des fois des objectifs carrément thérapeutiques là, qu'on peut avoir, fait que ça va dépendre encore une fois. Ça se colle à ce que la personne a plus de difficultés, puis comment qu'on comprend en fait son manque de désir, là. Donc, il y en a que ça va être de venir reconnaître, valider, communiquer en fait ses besoins sexuels. Puis si c'est en interaction avec une autre personne, ben, on veut que ça soit de chacun. Faciliter puis favoriser l'intimité, donc ça vient tout dans, OK, ben, comment est-ce que l'autre m'approche? Pendant la semaine, moi, c'est pas favorable. Une personne aime mieux ça le matin ou le soir, tu sais. Je m'attends à ce que ça dure combien de temps aussi? Si je m'attends à ce que ça dure plusieurs heures, ben peut-être c'est pas viable à chaque jour de s'attendre à
le
ça.
Le matin, genre, de semaine.
Oui, tout ça, ça revient un peu dans ça ressemble à quoi, puis c'est quoi que vous voulez également. Tu sais, il y en a qui sont bien satisfaits par des petites vites, puis après ça, des petites vites, c'est quoi? C'est 5 minutes, moins de 5 minutes. Beaucoup d'astérix, encore une fois. Après ça, il y a carrément, tu sais, développer la sensualité et l'érotisme, parce que ça peut enlever un peu la pression de pénétration également. Ça peut enlever la pression d'avoir une relation sexuelle. Ça peut être juste de rester un peu plus dans l'intimité, justement, pour favoriser cette connexion-là, qui peut, après ça, amener à une relation sexuelle si c'est souhaité, mais ça se peut que non.
Oui, ben ça me fait penser que des fois, le désir sexuel, il y a un besoin derrière ça qui n'est pas nécessairement d'avoir une sexualité, tu sais, que c'est comme, on peut vouloir du sexe pour autre chose que le sexe en tant que tel, tu sais, comme c'est-tu une question d'intimité, comme tu dis, de se reconnecter à son ou sa partenaire, de relâcher un stress, pas j'étais en crise, puis là, je veux juste pourrir, puis là, ça va être fini après, tu sais, ça se peut que ça se
passe. Connaître ses propres motifs pour une sexualité, c'est important aussi, là.
Ben oui, puis il y en a que c'est carrément dans « c'est comme ça qu'on connecte ». Fait que après ça, ça peut être intéressant de trouver d'autres moyens. Puis des fois, on va aller dans la diversification, en fait, des expériences sexuelles, tu sais, de peut-être que ça n'a pas besoin de toujours être dans la même chronologie, tu sais, puis des fois, il faut un petit peu changer. Donc, c'est là qu'on va aller dans diversifier ça pour peut-être faciliter, en fait, différentes réponses érotiques, peut-être en lien avec ça, puis travailler sur des activités sexuelles peut-être qui sont anxiogènes, qui vont être des inhibiteurs, en fait, tu sais, de... Ben, peut-être que quand on se met dans telle position, là, ça met dans « je dois être dans la performance » et donc, là, ça me freine, puis mid-act, non, ça marchera pas. Donc, des fois, c'est là qu'on va aller, puis des fois, l'anxiogène, ça va être carrément d'être nu, en fait. Donc, il faut travailler à cette étape-là, puis aller vraiment dans d'autres situations qui sont moins anxiogènes pour après ça, de plus en plus, mettre dans cette position-là. Là. Mais c'est beaucoup ça qui peut ressortir en lien avec le désir également.
Fait qu'il y a beaucoup d'objectifs. C'est encore plus, plus vaste qu'on peut le penser.
Donc, comme vous avez pu le constater, le désir sexuel est un élément de la sexualité humaine qui demeure encore assez abstrait, vu ses origines majoritairement psychologiques et autres. Plusieurs choses peuvent avoir un impact sur notre santé mentale et ainsi sur notre désir sexuel. Dans tous les cas, les sexmaîtresses vous radotent encore et encore. Plus vous vous connaissez, mieux vous serez capable de cerner ce qui augmente ou diminue votre désir. Cette semaine, peut-être qu'une petite introspection est de mise. Finalement, j'aimerais remercier Roxane pour le partage de ses expériences cliniques et toutes ses références aux voitures, aux moteurs, à la bouffe,
aux plantes.
Merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexmaîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout,
faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexmaîtresses vous souhaitent une bonne semaine! Bisous!
Bye!